Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve, j'ai eu un songe dans lequel Jésus revenait nous chercher. Et je n'étais pas pris. Ma famille s'en allait, je voyais ma femme et mes enfants partir, et moi je restais là. C'est un rêve qui m'a bouleversé. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma vie n'était pas en règle, et que si Jésus revenait aussitôt, il ne me prendrait pas avec lui. C'est un rêve qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il y a quelques jours encore, j'ai fait un songe dans lequel je dormais et je voyais ces lettres Matthieu 24, 36. C'était des lettres blanches sur un fond noir. Et donc je dormais, puis je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'avais encore cette vision. Je voyais encore ces lettres qui étaient là. Et je me suis rendormi et je voyais encore ces lettres. Voilà, donc j'ai eu sur le cœur de partager avec vous quelques pensées autour de ces versets de Matthieu 24, 36 à 44. Ce sont des pensées des versets qui nous parlent de l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est une expression qui est reprise ici, l'avènement du Fils de l'homme. Alors l'avènement, c'est quoi? Ça vient d'un mot grec qui s'appelle parousia, et c'est un mot qui signifie la venue ou l'arrivée. Et c'est un mot qui est utilisé avec une connotation d'un début de règne, donc comme la venue ou l'arrivée d'un roi, ce qui convient parfaitement à Jésus. Et le Fils de l'homme, c'est une expression, alors Fils de l'homme, c'est Jésus, c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans les évangiles, plus de 80 fois, mais c'est une expression qui est utilisée par Jésus seul. Seul Jésus utilise cette expression pour exprimer ce qu'il est, le Fils de l'homme. Il n'y a qu'une exception dans Jean chapitre 12 verset 34 où la foule reprend les paroles de Jésus et reprend cette expression Fils de l'homme. C'est la seule fois. Plusieurs des contemporains appelaient Jésus Fils de Dieu, ils l'appelaient le Messie, ils l'appelaient Fils de David, mais personne ne l'appelait Fils de l'homme. C'est une expression qu'on trouve dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Voilà cette expression Fils de l'homme que Jésus donc aime utiliser pour parler de lui. C'est une expression qui est très humaine, Fils de l'homme, qui nous parle de son humanité, qui nous parle de son humilité, lui qui est venu jusqu'à nous, lui qui est mort sur cette croix. Il s'est fait homme pour vivre au milieu de nous, jusqu'à nous servir. On a bien là la preuve de son humilité. Et il a accepté dans son corps d'endurer des souffrances ultimes jusqu'à mourir sur cette croix. Et encore ici, Daniel nous dit qu'il arrive sur les nuées. Cette expression Fils de l'homme, c'est aussi l'expression de celui qui va revenir dans sa gloire. Amen. Je crois qu'il est essentiel pour le salut de nos âmes de nous rappeler que Jésus va revenir un jour. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais réaliser qu'il va revenir, pour moi, c'est quelque chose de grand. Et c'est une réalité. Il ne faut pas oublier que c'est une réalité. Je crois que si on enlève cette espérance, si on enlevait cette espérance de notre relation avec Jésus, le vide serait énorme. Et il y a des chrétiens encore aujourd'hui, j'ai entendu des chrétiens douter du retour de Jésus. Pourtant, c'est une réalité. Et je crois que si on ne croit pas dans cette réalité, on passe à côté d'une promesse qui est essentielle pour nos vies. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, nous dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Certains en viendront à douter. Certains en viendront à se moquer. De faux prophètes prêchent l'évangile sans jamais parler du retour de Jésus, qui est pourtant essentiel. Et nous devons le rappeler constamment. Et dans ce monde, d'autres se moquent de nous. Nous qui croyons que Jésus va revenir. Nous qui croyons que c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. J'attends le retour de Jésus. Il va venir me chercher. J'attends de le voir sur la nuée. Et il va venir me chercher. Amen. Quand je dis ça, certains se moquent de moi. Ce que la Bible appelle les railleurs, les moqueurs. Ça, c'est une réalité aussi. Alors, tenons-nous à part de ces faux raisonnements, parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes à Christ. Nous sommes à Christ. Et nous l'aimons. Et nous qui l'aimons, nous avons une hâte, c'est de le voir revenir nous chercher. Amen. Je voudrais m'arrêter et partager avec vous sur quatre messages que nous donne ici Jésus dans ces versets de Matthieu 24, 36, à propos de notre conduite et dans l'attente de son retour. Il nous dit que personne ne sait la date et l'heure de sa venue. Il nous dit que sa venue arrivera comme au temps de Noé. Il nous dit que certains seront pris et d'autres non. Et puis, dans son attente, il nous donne les éléments clés de la conduite à tenir. Alors tout d'abord, personne ne le sait. Matthieu 24, 36. Personne ne le sait. Personne ne sait quand le Seigneur reviendra. Pourquoi ne le saurions-nous pas? Et qu'est-ce qui se passerait si on le savait? Pourquoi ne devons-nous pas le savoir? Est-ce que Dieu veut nous maintenir dans l'incertitude, dans la méconnaissance? Est-ce qu'il veut nous cacher cela? Est-ce qu'il veut nous protéger? Est-ce qu'il se dit « je ne veux pas leur révéler les choses à venir » Peut-être auront-ils peur, peut-être perdront-ils confiance en moi. Dans Matthieu 24, versets 1 à 35, Jésus va donner plusieurs indications sur les étapes qui vont précéder sa venue. Tout d'abord, il va parler d'une première période qui est décrite dans Matthieu 24 sur les versets 4 à 14. Ça nous parle de faux Christ, ça nous parle de bruit de guerre, ça nous parle de nation contre nation, de royaume contre royaume, ça parle de famine, de tremblements de terre, de persécutions pour ceux qui croient dans le nom de Jésus, de faux prophètes. Et dans les versets 13 à 14, il est dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » C'est aussi une période dans laquelle la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Amen. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les versets 15 à 28 qui suivent, Jésus nous parle de l'abomination de la désolation, qu'on appelle aussi la grande tribulation. Et la Bible décrit cet événement comme étant un événement mondial et décrit cette période comme la pire période de détresse que la terre ait jamais connue. Une époque de souffrance, de persécution encore pour les enfants de Dieu, ça va aller crescendo, de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Une période qui sera marquée par la domination de l'Antéchrist, celui que la Bible appelle l'homme d'iniquité. Et puis après cette grande tribulation, il y aura de nouveaux signes qui vont apparaître. Et cette fois, ce seront des signes qui seront non plus sur la terre, mais dans le ciel. Jésus nous les présente dans Matthieu 24, verset 29. Il est dit, aussitôt après ces jours de détresse, donc ça vient juste après, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlés. Je parlais d'un rêve que j'ai fait tout à l'heure et mon rêve commence à ce moment-là. En fait, tout disparaît, tout est en train de s'effondrer. Et si ça doit se passer comme ce que j'ai vu dans mon rêve, c'est terrifiant. Terrifiant. Et juste après, donc, dans le verset suivant, verset 30, Matthieu 24, 30, il est dit, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » C'est exactement ce que je faisais dans mon rêve, je me lamentais. Je ne faisais pas partie de ceux qui partaient avec le Seigneur, je faisais partie de ceux qui se lamentaient. Et dans mon rêve, je me lamentais, je ne savais pas qu'il était possible de se lamenter comme ça. Une souffrance terrible. Pour en revenir à notre sujet, donc Jésus ne nous a pas laissé sans indication sur ce qui va se passer. Pour en revenir à la question, personne ne sait. Il ne nous a pas laissé ignorants sur les signes annonciateurs de sa venue. Il nous les décrit, étape par étape. Pas plus qu'il nous cache ce qui va arriver, y compris le fait que ce sont des événements terrifiants, des événements terribles pour les enfants de Dieu. Il ne nous cache rien de tout ça. Quand Jésus dit « personne ne le sait », il dit « personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils », il faut comprendre que Jésus prononce ces mots alors qu'il est encore présent sur la terre. Et il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à des disciples qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 5, c'est Jésus qui parle. Il est dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » À présent, Jésus est retourné dans sa gloire. Il est auprès du Père. Et je suis convaincu qu'il a la connaissance du moment exact auquel il va revenir nous chercher. Personne ne le sait, donc le verbe « savoir » est utilisé ici dans la version grecque avec un mot qui est eido, eideo. Et ce mot eido a deux dimensions. Première dimension, il nous parle de vision, de voir avec les yeux de l'esprit. Et dans une deuxième dimension, il nous parle de connaissance. Ça pourrait vouloir dire arriver à la connaissance par les yeux de l'esprit. Et quand Jésus dit personne ne le sait, c'est personne n'est arrivé à la connaissance par les yeux de l'esprit. C'est dans ce sens-là, dans le sens du mot « eido » que Jésus s'adresse à ses disciples. Donc lorsque nous vivrons ces temps, et d'ailleurs nous les vivons déjà, ces temps-là ont déjà commencé, nous saurons avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière de la parole de Dieu reconnaître l'époque dans laquelle nous nous situons, avoir la connaissance des événements à venir. Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance, il nous a donné beaucoup de détails par sa parole. Il n'a rien caché de la vérité. Au contraire, il a été très explicite. Il est parti et il nous a donné son Esprit Saint. Et par son Esprit Saint, aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Nous pouvons avoir cette connaissance de ce qui va se passer. Il est important que nous sachions ce qui va se passer pour être bien concentrés sur ce retour de Jésus. C'est vrai que nous n'avons pas la date exacte. On n'a pas l'année, on n'a pas le mois, on n'a pas le jour et encore moins l'heure. Mais il nous a laissé sa parole et il nous a laissé son Esprit. Et lui qui fait toutes choses parfaites, il nous dit tout dans sa parole. Et surtout, par sa parole, nous avons l'espérance de son retour. C'est ce qu'il nous a laissé. Amen. Un deuxième message que nous donne ici Jésus, c'est à propos de ce qui arriva du temps de Noé. Matthieu 24, 37. Jésus compare deux événements, le déluge et son retour. Pourtant, ce sont deux événements qui sont très différents. Dans le cas du déluge, l'Éternel déplore la conduite des hommes à cette époque sur la terre. Dans Genèse 6, 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et face à cette situation, Dieu va choisir de punir collectivement et d'anéantir la présence de l'homme et de la vie sur terre. Genèse 6, 7, « Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Voilà l'intention de Dieu au départ. Ensuite, il viendra Noé, on y reviendra, Mais l'intention de Dieu au départ, c'est celle-ci, exterminer la vie sur terre. Dans le cas du retour de Jésus, l'intention au départ est différente. Jésus va revenir pour accomplir sa promesse, la promesse qu'il nous a faite. Il revient chercher son Église. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Jésus va venir nous arracher à ce monde, littéralement. Il va venir nous prendre, il va venir nous arracher. Pourquoi ? Pour nous unir à lui et pour que nous vivions avec lui pour l'éternité. C'est ça l'objet de sa venue. Donc deux situations très différentes. Au départ, les intentions sont très différentes. Dans le déluge et dans le retour de Jésus. D'ailleurs, à propos du déluge, dans Genèse 8, 21, l'Éternel dit « Je ne maudirai plus la terre, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Il a dit qu'il n'ordonnerait plus ce genre d'extermination, ce type de fléau. Donc, de ce point de vue, le retour de Jésus ne ressemble pas au déluge. Donc, s'il y a une ressemblance entre ces deux événements, elle se situe ailleurs. Et pour en comprendre la raison, on va s'attarder sur le verset 39 qui dit, Jésus parle et dit, « Ils ne se doutèrent de rien. » Ils ne se doutèrent de rien. Et là, on a un point commun entre ce qui se passe avant le déluge et ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Beaucoup ne vont se douter de rien. Les hommes vont être corrompus, hostiles à Dieu. Ils vont lui tourner le dos. Ils vont se moquer, ils vont railler ceux qui croient au retour de Jésus. Pourtant, un jour, il va revenir, alors que personne ne se doute de rien. Les livres de la Genèse 6, 7 et 8, donc c'est les livres qui concernent le déluge, ne nous donnent pas beaucoup de détails sur le comportement des hommes. Les versets nous disent qu'ils étaient corrompus et méchants. Okay. Ça suffit pour comprendre qu'ils s'étaient détournés de Dieu, qu'ils étaient hostiles à Dieu, qu'ils avaient d'autres pensées que des pensées tournées vers Dieu, et qu'à ce titre, donc, ils n'ont pas vu le déluge arriver, alors même que Noé, lui, préparer une arche. Dieu avait parlé à Noé. Si les hommes s'étaient intéressés à Noé, Noé aurait pu expliquer ce qui allait se passer. Mais vraisemblablement, les hommes s'étaient détournés de Dieu. Très certainement, j'imagine que là aussi, Noé était moqué, raillé. Lui qui construisait une très grande arche, alors qu'il n'y avait pas de cours d'eau à proximité, à la dimension de l'arche. Très certainement que de ce point de vue, les deux événements se ressemblent. Et Dieu a donné une arche à Noé. Pourquoi ? Parce que la parole dit que Noé était un homme juste et intègre. Et c'était un homme qui marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il était à part dans sa génération. Lui, il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation forte, une relation de proximité, une relation d'intimité avec Dieu. C'est pas « je prie de temps en temps » Je vais à l'église de temps en temps, c'est pas ça. Marcher avec Dieu, c'est on marche ensemble. On dialogue, on vit ensemble. On s'aime. On est prêt à se donner l'un à l'autre. C'est ça, marcher avec Dieu. Donc nous serons surpris. Alors pour nous qui l'attendons, qui espérons vraiment son retour, pour nous qui avons connaissance des événements qui vont se produire, comment pourrons-nous être surpris ? C'est Jésus lui-même qui nous l'enseigne dans Matthieu 24, verset 27. Et il dit, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Comme un éclair. En une fraction de seconde. Instantanément. Il va venir, il va nous arracher, il va nous enlever. Ça va se passer d'un claquement de doigts. Paul rajoute dans la première épître aux Corinthiens, en un instant, en un clin d'œil à la même trompette. C'est vraiment la même description. Et là, on peut mieux comprendre l'effet de surprise. Nous allons disparaître, nous allons être enlevés d'une seconde à l'autre. De ce point de vue, effectivement, ça risque d'être très surprenant. Le mot utilisé pour enlever est un mot grec qui est harpazo, qui signifie saisir. Enlever de force, c'est un mot qu'on pourrait utiliser pour un enlèvement. Ravir, en une fraction de seconde, il va venir et il va nous emporter. Vous vous rendez compte? Donc même si nous l'attendons de tout notre cœur, attendons-nous être surpris par la soudaineté de sa venue. Ça veut dire que on va être surpris, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt, pas 10 secondes avant, forcément pas 10 secondes après, parce que là, ce sera trop tard, mais à l'instant T. Il faudra être prêt à l'instant T. En fait, il faut être prêt à tout moment. Troisième message que nous donne Jésus dans ces versets, « L'un sera pris et l'autre laissé. » Matthieu 24, 40. « Certains seront pris et d'autres non. » C'est terrible. Dans mon rêve, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas pris. Et c'était terrible. Terrible de réaliser que, ça y est, t'as loupé le train. Le train, c'était là, c'était maintenant. Il repassera pas. C'est fini pour toi. Tu restes avec tous les autres là. Et tu vois tout le monde se lamenter. C'est terrible. Terrible. Je crois qu'une chose est importante, c'est que le Seigneur n'est pas encore revenu. Il reviendra, c'est sûr. Je pense qu'un des éléments qui font qu'il n'est pas revenu, c'est qu'il veut sauver le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes. Et il a besoin de nous pour ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il va prendre, entre guillemets, n'importe qui. Non. Il va falloir répondre à certains critères, bien sûr. Mais il nous laisse encore du temps. Il va venir nous chercher, nous, ses disciples. Les disciples passés, les disciples présents, les disciples à venir. Puisqu'il va aussi ressusciter les morts en Christ. Et dans Jean, chapitre 14, versets 3 et 4, il nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, vous, que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Il a dit « Lorsque je m'en serai allé. » Et cette parole s'est accomplie. Et il nous dit qu'il va revenir. Et aussi sûr qu'il s'en est allé, son retour va s'accomplir. C'est aussi une réalité. Il nous a dit qu'il nous préparait une place. Et ça, c'est une promesse sur laquelle nous pouvons compter. C'est notre espérance. Il va revenir pour ses disciples. Et il va revenir pour quoi? Dans quel but? Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà pourquoi il vient nous chercher. Le premier élément, la raison pour laquelle il vient nous chercher, parce qu'il veut que nous soyons avec lui. Nous, ses disciples. Nous qui l'aimons. Nous qui aurons fait preuve de fidélité, nous qui aurons fait preuve de persévérance, nous qui aurons fait preuve d'amour pour lui, il va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36, il dit, c'est Jésus qui dit, il donne une autre raison, « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront lors de la grande tribulation. » Donc, puisqu'il va venir nous chercher, à ce moment-là, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alors, comment ça va se passer? Comment certains vont être pris et d'autres ne vont pas être pris? Comment il va les choisir? Toujours dans l'évangile de Luc, verset 35, on va revenir juste un peu avant, c'est Jésus qui parle, il dit « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il emploie l'image du filet. Dans les évangiles, le filet, la pêche sont très présents. Et là, il réutilise cette image, le filet de pêche. Il va venir comme avec un filet, et c'est grâce à ce filet, c'est une image bien sûr, mais c'est grâce à cette image du filet qu'on comprend que certains vont être pris et d'autres non. Un filet de pêche, bon, ça sert à pêcher, bien sûr, mais ça, différents filets servent à pêcher différentes sortes de poissons. Il y a des petits poissons, des moyens poissons, des gros poissons. Si je veux pêcher des gros poissons, j'utilise des filets avec des grandes mailles. Si je veux pêcher des tout petits poissons, je vais utiliser des filets avec des toutes petites mailles. Là, je ne sais pas à laquelle il va choisir. Je dirais qu'il va choisir un filet avec un calibre divin, selon des critères divins. Ce que je sais, c'est que certains vont passer entre les mailles, et puis d'autres resteront dans les mailles du filet. Si on lit bien le verset 36, Jésus précise et il dit « Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi ? Afin que vous ayez la force d'échapper. » Afin que vous ayez la force d'échapper. Il nous faudra une force. Si on n'est pas assez fort, on va passer à travers les mailles du filet. Et en plus, il nous donne les bases de notre entraînement spirituel, veiller et prier. Voilà, deux actes spirituels qui vont muscler notre spiritualité, notre foi, notre amour pour Dieu. Parce qu'il faudra être fort. Voilà pourquoi l'un va être pris et l'autre laissé. On pourrait dire, le fort sera pris et le faible sera laissé. Et je parle de foi, je parle d'amour pour Dieu. Alors fortifions-nous et fortifions nos âmes, en veillant et priant comme nous l'a demandé Jésus. Si je vous dis 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et c'est ce que nous dit encore Jésus. Je rajoute le psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. La prière fortifie nos âmes. Et nous aurons besoin de cette force pour pouvoir rester dans le filet. Amen. Donc je résume. Ce qui a été dit depuis le début, pour ne pas se perdre, parce que moi-même je vais me perdre à force. La parole de Dieu et le Saint-Esprit nous apportent la connaissance et la compréhension des événements à venir. Et la réalité du retour de Jésus, qui va se produire, c'est une réalité. Mais il faudra être prêt au bon moment. Il faudra être prêt à l'instant T pour être pris par Jésus. Et comment nous le ferons ? Avec des âmes qui seront rendues fortes par la veille et par la prière. Jésus nous donne quelques enseignements supplémentaires sur notre conduite, ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous conseille pour être prêt le moment venu. Veillez donc, sachez-le bien, tenez-vous prêt. Matthieu 24, 42, 44. Et il rajoute un peu plus loin, c'est dans l'évangile de Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Priez sans cesse, priez en tout temps. Ça, ce sont les conseils de Jésus. Donc si Jésus nous donne des conseils, c'est pour être appliqué à la lettre. Il nous les donne parce qu'il nous aime, il nous les donne parce qu'il est plein d'amour pour nous, parce qu'il est plein de bienveillance pour nous, plein de bonté pour nous, et qu'il ne veut pas nous laisser seuls et sans connaissance de la conduite à tenir. Nous sommes appelés à arriver à la connaissance. Donc quatre attitudes spirituelles. La première, veiller. Alors le mot grec utilisé à l'origine, c'est le mot grégoréo. Veiller, être éveillé. C'est le même verbe qui est utilisé par Jésus dans le jardin de Gethsémané, quand il dira à ses disciples, veillez avec moi. Quand il va leur dire à ce moment-là, veillez avec moi, il va utiliser grégoréo. Quand il va revenir un peu plus tard et qu'il va leur dire, vous n'avez pas su veiller ne serait-ce qu'une heure avec moi, veillez à ce moment-là, c'est encore grégoréo. Donc, grégoréo, c'est lutter contre l'assoupissement, lutter contre l'envie de dormir. Vous savez, quand vous avez les paupières lourdes, là, et la tête qui... Le nez qui pointe vers l'avant, comme ça. Et là, il faut lutter, c'est dur. La somnolence en voiture, je ne sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait beaucoup. Voilà, on sent que c'est dur. Et là, il faut lutter. C'est ça, grégoréo. Donc quand Jésus nous dit « veillez », « veillez donc », il nous dit « lutter contre l'endormissement ». Parce que le danger qui nous guette, en fait, c'est ça. C'est de nous endormir spirituellement. Et de perdre notre intelligence spirituelle, de perdre notre discernement, notre lucidité. Veiller parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. On ne le sait pas. On connaît les signes annonciateurs, mais le moment exact, on ne le sait pas. Et on sait qu'il faudra être prêt à l'instant T parce que ça va se passer comme ça. Et il nous dit veillez donc. Veillez donc. Le donc est important. Parce que le donc, il insiste sur le fait que veiller, c'est la réponse au risque de s'endormir. Donc, veillez, discernez aussi, puisque Jésus nous dit lui-même que plusieurs viendront sous mon nom. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, veillez, c'est aussi discerner. C'est aussi reconnaître qui parle au nom de Jésus et qui est un faux prophète. Alors, nous qui savons et qui connaissons sa parole, on doit être capable de reconnaître Jésus entre 10 000, entre 100 000, entre 1 million. Lui, il va venir sur les nuées. Il va arriver sur les nuées. C'est pas une fable, hein, c'est pas C'est la réalité. Il va arriver sur les nuées. On va le voir arriver sur les nuées. Au son de la trompette de Dieu. C'est ce que dit la parole. Il ne va pas arriver incognito. Il va venir sur les nuées, au son de la trompette de Dieu, et nous, on va être emportés dans les airs avec lui. Amen. C'est celui-là seul que nous attendons. Ce n'est pas celui qui est ailleurs. Ce n'est pas celui qui dit autre chose que ce qu'il nous a dit. Celui que nous attendons, c'est lui. Et notre discernement doit nous amener à être capable de le différencier de tous les autres. Donc veillez, veillez, veillez. Deuxième attitude spirituelle, savoir. Sachez-le bien. Ici, c'est le mot grec « ginosko », apprendre à connaître. Donc c'est une connaissance qui est fondée sur l'expérience. L'expérience personnelle. C'est un mot qui est utilisé par exemple dans Luc 6, 44, quand Jésus dit qu'il reconnaît chaque arbre à son fruit. Donc ici, le verbe connaître, c'est ginosko. Donc c'est concret, c'est pratique. J'ai un arbre, je vois un gros fruit rouge, je le prends, je le sens, je le goûte, c'est une pomme, c'est un pommier. C'est concret, c'est pratique, c'est simple. Je peux facilement utiliser ma connaissance à ce moment-là. Donc, Jésus utilise cette expression pour nous exhorter à nous méfier du voleur qui arrive. Un voleur, on sait ce que c'est, le mal qu'il peut faire dans notre maison. Et on sait aussi qu'on a un ennemi. Il y a un ennemi de nos âmes. Lui aussi, il veille. Nous, on est appelés à veiller, mais lui aussi, il veille, ne vous inquiétez pas. Et si vous vous endormez, il ne va pas vous louper. Il ne va pas nous louper. Donc, tirons des enseignements concrets et surtout, appliquons ces enseignements avec fidélité et avec persévérance. Je sais bien que ce sont deux mots qui ne sont pas très à la mode aujourd'hui, la fidélité et la persévérance. Mais pour nos âmes, pour le salut de nos âmes, ce sont deux mots qui sont majeurs, deux mots qui sont essentiels. Amen. Le savoir, c'est développer notre maturité spirituelle et le faire de plus en plus et jour après jour. À la lumière de ce que nous vivons, donc c'est ce fameux mot ginosko, à la lumière de ce que nous vivons, mais éclairé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, au travers des situations que nous vivons, nous permet d'en tirer les enseignements et d'utiliser tout cela de façon concrète dans notre relation avec Dieu. Donc nous sommes appelés à savoir. Troisième attitude spirituelle, se tenir prêt. Jésus nous dit, tenez-vous prêt. Se tenir, ici ça vient du mot grec ginomai. Devenir, commencer à être, c'est un processus de transformation. C'est le mot qui est utilisé pour décrire le moment où le diable va venir tenter Jésus dans le désert et lui dire, transforme ces pierres en pain. D'accord ? Donc à ce moment-là, le mot transformer, que ces pierres deviennent des pains, deviennent, c'est le mot ginomai. Donc se tenir prêt, c'est pas juste voilà, être là statique, après j'ai mis mon plus beau costume, j'attends Jésus, c'est pas ça, c'est tout de suite. C'est pas quand il va venir, c'est pas être prêt le jour où il va venir, c'est être prêt tout de suite, dès maintenant et jour après jour. Et puis enfin, dernier conseil donné par Jésus, c'est prier sans cesse. Donc bien sûr, il y a une infinité de bonnes raisons de prier. J'en donne deux qui sont en rapport avec le sujet, qui est le retour de Jésus. C'est, on l'a dit, la prière nous rend fort. La prière fortifie nos âmes et on aura besoin de force pour pouvoir partir avec Jésus. Et deuxième bonne raison, c'est que la prière, tout simplement, nous permet de dire à Jésus que nous l'aimons et que nous attendons son retour. Pour terminer, je voulais partager un verset que vous connaissez tous, Apocalypse 22:20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Quel beau verset. Je vois Jésus qui dit « Je viens bientôt. » Et j'entends son Église qui répond « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » J'entends le Seigneur qui me dit « Je viens bientôt. » Et je lui réponds « Amen. Viens, Seigneur. » Amen. Comment pouvons-nous dire à Christ que nous l'aimons et ne jamais prier pour son retour? Moi, je ne prie pas souvent pour son retour. Je me suis rendu compte de ça. Je lui rends grâce pour ses bénédictions, pour sa présence, son amour, sa mort à la croix. Son retour, je ne le remercie pas par avance pour son retour. Comment pouvons-nous prier et dire « Seigneur, j'aime ta présence et ne jamais prier pour lui dire, viens me prendre pour l'éternité, je veux rester avec toi pour l'éternité. Viens maintenant. Jésus nous dit, je viens bientôt. Alors, comme l'Église et comme l'épouse, disons-lui tous ensemble, amen, viens Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Encore ce soir, tu nous as fait du bien, Seigneur. Oh, nous sommes tellement impatients de te voir arriver, Seigneur. Et c'est vrai que beaucoup nous moquent et beaucoup nous raillent parce que nous croyons en ton retour. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Je m'en moque complètement, Seigneur. Tout ce qui compte pour moi, c'est te plaire. Tout ce qui compte pour moi, c'est faire ce que tu m'as conseillé, faire ce que tu m'as demandé. Tout ce qui compte pour moi, c'est que le jour où tu vas revenir, à l'instant où tu vas revenir, comme un éclair, Seigneur, je veux être prêt. C'est la seule chose qui importe à mes yeux. Je veux aussi prier pour tous ceux qui sont éloignés de toi, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour la mission que tu as donnée à ton Église. Merci pour ce que nous avons vu encore ce week-end dans les rues de Toulouse, pour ces jeunes qui se sont levés, ces jeunes qui sont allés vers la foule, Seigneur, pour porter ta parole, Seigneur. Oh oui, nous sommes encore dans le temps où ta parole doit être prêchée. Nous sommes encore dans le temps où l'Évangile doit être annoncé aux nations. Oh, utilise-nous, Seigneur. Nous sommes impatients de te voir, mais nous voulons rester prêts, car tu reviendras quand tu l'auras décidé. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Garde-nous encore, Seigneur. Garde ton Église, Seigneur. Garde chacun de tes bien-aimés, Seigneur. Et aide-nous à rajouter encore des âmes à ton Église. À toi soit toute la gloire et l'adoration de nos cœurs, Jésus. Amen.